Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Herdivoire et c'est l'heure de l'interview avec au studio Jérôme Bouvier. Bonjour.
Bonjour.
Jérôme Bouvier, vous êtes président du Festiwild et vous êtes aussi en charge de sa programmation. Et donc, vous allez nous présenter cette édition, la 4e, qui aura lieu donc à partir du vendredi 27 jusqu'au dimanche 29 septembre. C'est un rendez-vous qui permet, entre autres, de réconcilier l'humain et la nature. Donc vous nous exposerez aussi ce motif. L'événement qui se passe d'ailleurs à l'ancien monastère de Sainte-Croix, avec des expositions, des conférences, des concerts, des spectacles et des films également. Alors, c'est parrainé cette année par Vincent et Michel Munier. On présentera ces deux personnes durant l'émission. Pour vous, Jérôme Bouvier, cette création du Festival, qui est une biennale donc dédiée à l'écologie, c'était une nécessité à vos yeux de créer ce Festival il y a 8 ans maintenant ?
Il y a 8 ans maintenant, oui. Alors, il y a eu un concours de circonstances pour la création de ce festival, puisque au départ, on est venu me chercher pour créer un festival de films nature. À l'époque, c'était Madeleine Rubin, qui était à l'époque à l'ASPAS, et Frédéric Sauvage, qui est le directeur de l'ancien monastère de Sainte-Croix, où se passe le festival. Et moi, à l'époque, j'étais dans la lecture d'un livre de Baptiste Morisot, qui va venir cette année encore, qui est un philosophe qui réfléchit beaucoup sur notre lien à la nature et sur comment vivre avec les autres formes de vivant. Et moi, je me disais à l'époque, des festivals de films, il y en a vraiment partout maintenant, films nature, etc. Mais il n'y a pas de festival sur une thématique et notamment sur notre lien à cette nature sauvage. Qu'est-ce qu'on fait de ces animaux, de ces plantes avec qui il faut cohabiter, qui nous gênent parfois, etc. Est-ce que, jusqu'à présent et beaucoup, on est plutôt dans la résolution de problèmes en éliminant les choses. Et on se rend bien compte que c'est plus possible, en fait. On est vraiment dans une extinction de masse d'espèces, etc. Donc, il faut arrêter ça. Il faut réfléchir à comment on peut se positionner dans le monde par rapport aux autres formes de vivant et vraiment les prendre en compte aussi, au même titre que son voisin, etc. Donc, c'est parti de là. Et puis, on est parti avec une petite équipe de 4. Et puis, on fait ça tous les 2 ans. L'équipe grossit. Et là, on est en pleine installation avec entre 10 et 15 bénévoles tous les jours sur site pour mettre en place tout ce qu'il va y avoir durant ce week-end. Et ça va être très, très riche. Ouais.
Cette association qui a lancé ce festival, qui regroupe-t-elle et quels sont les secteurs d'intérêt, justement, et peut-être aussi les compétences qui y sont ?
Cette année, on est entre 10 et 15 et on a plusieurs commissions. Donc il y a une commission de programmation, il y a une commission logistique, il y a une commission scolaire, une commission communication, etc. On a essayé de se répartir les tâches avec des pôles forts comme cette commission scolaire, puisque en plus du festival, le vendredi est consacré à l'accueil de classe sur site, où on organise toute une journée avec des animateurs autour des expos. Cette année, on est en partenariat avec le Parc naturel régional du Vercors. Donc, ça va être, on va avoir à peu près entre 120 et 130 enfants qui vont venir sur le site, qui ont participé à un programme qui s'appelle J-Pact pendant toute l'année avec le parc. Et nous, on vient prolonger un peu cette action. Et avec une journée qui est consacrée pour eux. Et donc, maintenant, c'est une équipe qui commence à être de plus en plus rodée. C'est un peu tous les profils, faut dire. Donc, il y a des gens essentiellement du Diwa, et puis un peu en dehors de la vallée, à l'entrée de la vallée. Il y a des photographes, il y a une personne qui travaille au parc, il y a des indépendants, il y a un peu de tout, mais tous des gens très, très sensibles, sensibilisés par cette thématique,
C'est un rendez-vous qui s'adresse à tous les publics, ou alors est-ce qu'il y a aussi des particularités peut-être plus spécialisées ou qui répondent peut-être à des propos beaucoup plus pointus?
Alors, on est vraiment dans une proposition qui est tout public, avec à la fois des spectacles, des conférences, des expositions qui vraiment s'adressent à tout public. On a des spectacles pour enfants, pour tout petit, pour tout public. Après, au niveau des conférences, on a des gens très, très pointus. Baptiste Morisot, Francis Allais, ce sont des grands spécialistes. Mais ce sont aussi des gens qui savent très, très bien parler de choses compliquées d'une manière très simple et très imagée. Donc, à chaque fois qu'ils parlent, ça nous rend un peu plus intelligents. On a l'impression de tout comprendre. Et donc, non, il n'y a vraiment pas de spécialistes qui vont nous parler dans un jargon un peu incompréhensible de scientifiques, tout ça. Non, c'est vraiment, on essaye d'amener les gens à s'intéresser, à baigner dans une bulle pendant le temps d'un week-end autour de ces thématiques, avec pas mal de liens entre certains spectacles et certaines expositions, etc. Donc, ça permet d'avoir une vue un petit peu d'ensemble et vraiment de rentrer dans une immersion dans cette thématique du lien avec une nature sauvage.
Alors, ce week-end, gros week-end, donc, propose ces liens, que ce soit expo, conférences, concerts, spectacles, films, sont aussi sur une même longueur d'onde sur les propositions.
Ouais, je dirais pas ça. Il y a une thématique donc qui regroupe tout ça, mais alors ça peut être très très varié. Très varié, ça va du spectacle multimédia, on va dire, avec à la fois de la musique live, de la danse, de la projection. Un spectacle qui beaucoup plus, là où il y a 4 ou 5 comédiens sur scène, un spectacle beaucoup plus léger, qui sera un concert dessiné autour de l'œuvre de Jean Giono, qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. On a des spectacles aussi, alors tout ça se passe sur une scène dans la grande cours, en plein air. Certains spectacles vont se passer dans les jardins, mais on a par exemple de la marionnette avec le spectacle Immondice, et puis on va avoir des choses bien différentes qui sont un travail sur l'animalité par des artistes comme Cyril Casmès, qui a été au Cirque Plume longtemps. C'est lui qui fait le chien au cirque, ou alors dans Astérix, dans certains films d'Astérix, etc. Quand on voit un comédien imiter des animaux, c'est souvent lui, et lui a inspiré beaucoup de comédiens comme ça, ou d'artistes. Et on a donc deux autres artistes qui seront là et qui ont été formés par Cyril Casmès, notamment Fabrizio Solinas, qui est un Italien, qui fait un jonglage, le tout en imitant les postures de parade des lézards et des reptiles. Donc c'est vraiment éclectique, mais avec cette thématique qui est le point central de ce festival.
Donc le point central, c'est réconcilier l'humain et la nature. Il y a un spectacle qui m'accroche, c'est celui de samedi 28 septembre à 10h, avec Zoomorphie, l'humanimalité par la compagnie du singe debout. Donc ça, c'est une conférence dérapante. Quelle définition donne-t-on à ce terme?
Alors, donc ça, c'est un spectacle qu'on a demandé à la compagnie du singe debout, qu'il a créé pour Festiwild. Et sur le modèle des conférences dérapantes qu'ils font par ailleurs. Alors là, ce sera un peu moins évolué, mais l'idée de la conférence dérapante, c'est d'avoir un conférencier spécialiste vraiment d'un sujet, donc quelqu'un de absolument très sérieux, qui peut être un philosophe, un scientifique, etc., qui va parler d'un sujet. Et à côté, un comédien acteur comme Cyril Casmès, qui va illustrer la conférence par des postures animales. Et Cyril, quand il se transforme en animal, mais c'est impressionnant, il prend les mimiques d'un singe, d'un gorille, d'un ours, etc. Et tout à coup, c'est plus un homme du tout, quoi. Et donc, c'est ce mélange-là entre à la fois... C'est pour décaler un petit peu le propos trop sérieux de certaines conférences et le mettre un peu en image, on peut dire, en live. Ce sera un tout nouveau spectacle. On sait pas ce qu'ils vont nous sortir. Ce sera une surprise pour nous aussi. Mais il n'y a pas de doute que ce sera super bien, parce que les deux, Jade et Cyril, sont vraiment très impressionnants. Ouais.
Il y a aussi donc des expositions qui seront diverses, que ce soit photographique.
Oui, cette année, on va avoir 12 expositions permanentes et 2 événements sonores. Donc, ça va de l'aquarelle à l'origami, des cyanotypes aussi de Fanny Zambaz, des tissus qui, avec une artiste d'Udiwa, Catherine de Robert, qui travaille autour du végétal. On a un illustrateur, Olivier Lavigne, qui a travaillé avec Rémi Marion, qui est un grand spécialiste des ours polaires, et qui ils ont sorti un livre chez Actes Sud autour de l'ours, qui s'appelle « L'ours, petit traité humoristique à l'usage des humains ». On a du dessin qui va être sur site. On a évidemment des expos photos, notamment une très, très grosse expo d'Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas, qui va occuper tous les espaces extérieurs du monastère avec des photos autour de 4 thématiques qui représentent un peu l'évolution de la Terre. Et des photos d'1m80 de base, etc. On est en train de la mettre en place, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, Catherine Blancart qui travaille au stylo Bic Rouge et qui a fait, c'est pas pour rien qu'elle a fait ça, c'est qu'elle a dessiné les animaux de la liste rouge des espèces menacées. Tout ça dans l'église. Un autre local de l'étape qui est Olivier Teillard, qui a une expo qui est aussi parrainée par le PNR du Vercors et qui s'appelle Vautour en Vercors. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses, des insectes aussi, etc. Et puis, des événements sonores, où là, on a un espace dédié où les gens vont pouvoir aller un peu quand ils veulent. Et là, il y a un programme qui va tourner sur la journée, où là, on inverse un peu les choses, c'est-à-dire que par rapport à un paysage sonore qui vous est donné, il faut essayer de deviner ce que c'est derrière. Il y aura quelques photos qui vont donner des indices au début, et puis petit à petit, ce paysage sera révélé par ces photos qui seront projetées en même temps que cette ambiance sonore. Donc ça, c'est aussi avec des gens qui sont basés dans le Diwa ou dans les environs. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de ressources de gens très, très talentueux qui sont là. Là, c'est Fernand Desroussans qui est vraiment dans le fond de la vallée, là-bas, du côté de... en allant sur Gap. Et puis Xavier Marion qui est un peu du côté de Cray, là-bas. Mais voilà, un travail très intéressant, un travail de Nol aussi autour des cigales. Lui a récolté pendant ses randonnées un peu partout des mûres de cigales. Et il en a fait une installation à la fois visuelle, puisqu'il éclaire ses mûres, et puis sonore, où les gens qui vont rentrer dans l'installation, vont pouvoir reproduire le son des cigales, mais mécaniquement, avec des objets qu'il a trouvés, avec des gramophones, avec des choses comme ça, et pour retrouver une ambiance d'été autour des cigales. Voilà.
Juste par rapport à ces expositions, il y a Jonathan Rebouillat, donc, oui, qui propose ces origami sauvages. Peut-on définir aussi ce terme de sauvage avec l'origami? Est-ce que ça sera l'utilisation de matières naturelles pour les concevoir? Et j'ai découvert récemment aussi les possibilités de l'origami et dont les scientifiques et les entreprises s'intéressent, notamment aussi pour la construction. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un éventail de toutes ces possibilités qui seront présentées autour de cette exposition?
Alors, cette exposition, elle sera uniquement consacrée aux œuvres de Jonathan, qui, lui, travaille sur des animaux de la faune sauvage, qui va mettre en pli, on peut dire, avec ses origamis. Et donc, c'est couplé. Ça va du Bouvreuil au Gypaète barbu. Il y aura notamment un Gypaète barbu grandeur nature qui sera exposé dans le temple. Et puis, lui, aura tout un espace. Et à côté de ça, il met en situation ces animaux dans les milieux dans lesquels ils vivent. Il les prend en photo et il expose aussi les photos. Mais je pense que ça s'arrête là. Peut-être lui, sur place, pourra parler de... des possibilités de l'origami dans d'autres domaines que le sien, qui est un peu, on peut dire, sculpture, quoi, sculpture papier. Il saura certainement en dire plus sur les possibilités de l'origami. Et puis, avec lui, il y aura moyen de découvrir vraiment d'une manière très concrète l'origami, puisqu'il va organiser un peu des ateliers durant l'exposition. Il va travailler aussi avec nous, avec les scolaires. Et pendant le temps du FestiWild, il va proposer aux gens de venir s'essayer et de donner des techniques sur l'origami. Donc là, il y aura moyen de lui poser plein de questions comme la tienne, là, auxquelles moi, je ne sais pas répondre, en fait.
Ce festival est parrainé par Vincent et Michel Munier. Ouais. Peut-on présenter ces deux personnes?
Oui, tout à fait. Alors, Vincent Munier, pour moi, c'est un compagnon de longue date. Donc, lui, c'est un photographe animalier qui est sans doute un des meilleurs photographes animaliers au monde, selon moi. Alors, lui, ça va le gêner si on dit ça, mais dans le milieu de la photographie, en général et en particulier en animalier, c'est très, très dur d'en vivre. Et lui, c'est un peu devenu une star parce qu'il est très, très connu dans ce milieu-là. Et ça dépasse aussi le milieu de la photo parce que se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, avec Marie Amiguet, il a réalisé le film La Panthère des Neiges. Et c'est quelqu'un qui a orienté la photographie animalière et qui l'a élevé au rang d'art. Si c'est lui qui autoproduit ses livres. Et quand vous feuilletez un livre de Vincent Munier, c'est une vraiment œuvre d'art sur le choix du papier, sur la disposition des photos, évidemment sur ses photos. Il y a des photos, on dirait des vraies peintures, il y a quelque chose. Et lui, il n'aime pas montrer, il veut suggérer à chaque fois. C'est sa grande spécificité. Depuis, il y a plein de photographes qu'il copie, sans forcément dire que c'est la source d'inspiration, mais y en a plein qui le copient. Mais voilà, Vincent reste Vincent et avec un talent énorme. Et là, il vient parce qu'il a un projet de film en cours qu'il est en train de monter sur son père, qui est un naturaliste des Vosges. C'est lui qui l'a amené à la photographie, c'est lui qui lui a appris plein de choses sur la forêt, sur les animaux. Et qui est un grand défenseur des vieilles forêts des Vosges, qui est représenté par le Grand Tétras. Et ces forêts sont vraiment en danger maintenant. Et du coup, Vincent a décidé de faire un film sur son père et sur ces vieilles forêts des Vosges. Et donc, le film est encore en montage, presque même en conception, mais il va nous montrer un peu des premières images, des pré-séquences, pour nous donner envie et surtout pour parler de ces vieilles forêts des Vosgiennes.
Il y a donc tous ces aspects, hein, que ce soit scientifique, artistique. Est-ce qu'il y a des jonctions qui s'opèrent entre ces deux milieux, notamment avec ce spectacle sur cette conférence dérapante? À cette image, il y a d'autres propositions similaires. Est-ce que ça démontre aussi les possibilités et le partenariat?
Oui, tout à fait. Je crois que ça existe de plus en plus. C'est vrai que quand on a créé ce festival, depuis 2018, la thématique du sauvage a vraiment explosé. Donc, cette thématique de notre lien aux autres formes de vivant et comment les intégrer dans nos vies pour ne pas soit juste les ignorer et soit juste les détruire, c'est vraiment une thématique qui a explosé et nous, on le sent bien dans FestiWild puisqu'on a de plus en plus de propositions de spectacles autour de cette thématique. Et ces spectacles, soit ils se basent sur des éléments scientifiques qui vont prendre chez les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là, donc soit l'éthologie, soit l'écophysiologie, etc., soit sur ces philosophes comme Baptiste Morisot, comme Vinciane Després, etc., qui travaillent beaucoup sur ce sujet et qui sont des vraies sources d'inspiration pour ces auteurs. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de ponts qui existent entre l'artistique, la philosophie et la science. Et de plus en plus de spectacles sont à cette frontière-là et essayent de mélanger ces trois aspects. Et donc, comme tu le disais, il y a la proposition de la conférence dérapante, un peu dans ce mélange. Et il y a aussi la proposition de la compagnie Célium, qui s'appelle La String, qui est une sortie naturaliste complètement décalée. Et ça, c'est à se tordre de rire, quoi. On les a déjà eus à la première édition et tout le monde nous a dit « mais faut qu'ils reviennent ». Et donc, on les a fait revenir cette année. Ils étaient là il y a 2 ans déjà et il y a 4 ans pour un autre spectacle autour des chauves-souris. Et toujours avec là un mix de données scientifiques très pointues sur les comportements, etc. Mais mise en forme avec de la musique, avec de l'humour, énormément d'humour, par cette compagnie hyper talentueuse. Oui, on est de plus en plus, ce mix-là fonctionne bien et c'est une façon de faire passer des messages qui est très intéressante.
D'ailleurs, dans le cadre des conférences marché, il y a des inscriptions, hein, il y en a 2 qui préconisent justement une inscription.
Oui, tout à fait. Notamment cette marche du temps profond qui est proposée par Jérôme Breton, qui a un gros succès il y a 2 ans et qu'on fait revenir là. Et là, c'est une randonnée, entre guillemets, de 4 heures. Donc, ce n'est pas du tout dur physiquement, hein. C'est accessible vraiment à tout le monde. Et un pas représente une durée de temps dans l'histoire de la Terre. Et donc, il part de la création de la Terre et il arrive jusqu'à nos jours. Et donc, on se rend compte que on avance assez vite au début. Et puis, petit à petit, il se passe de plus en plus de choses que l'on connaît et que lui va expliquer sur l'apparition de la vie, l'apparition des plantes, l'apparition des grands événements géologiques, etc. Et c'est, ça permet, cette balade, de se rendre compte déjà de changer un peu d'espace-temps pour réaliser à quel point notre Terre est vieille, enfin 4 milliards d'années, et qu'il s'est passé plein de choses, et que la période des humains là-dedans, elle est infinitésimale. Donc, et ça, c'est important de ne pas l'oublier, quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7
FM.
Vous parliez de Baptiste Morisot, philosophe. En quoi il vous a marqué? Et il proposera donc une conférence, Rendre l'eau à la terre.
Oui. Baptiste, depuis que je l'ai découvert à travers un livre qui s'appelait Les Diplomates à l'époque et qui traitait de notre lien avec les loups. Alors Baptiste, lui, dans ses écrits, c'est vraiment un langage de philosophe, etc. Donc il faut se plonger dedans, il faut être concentré, etc. Et la première fois que j'ai lu ce livre, qui est pourtant un pavé, il y a des choses que je ne captais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant. C'est une thématique qui me passionne. Personnellement, je suis cinéaste nature, animalier, donc je suis tout le temps dehors. Et c'est ce lien avec le sauvage. Ça m'intéresse depuis tout le temps. Et donc, ce livre m'a accroché sans que j'en comprenne tout. Et du coup, je l'ai relu dans la foulée. Et tout à coup, il y a plein de choses qui me sont apparues à ce moment-là. Et j'ai vraiment trouvé que la thématique qu'il abordait et ce questionnement qu'il a sur notre lien avec les autres formes de vivant, il est crucial, il est super important et super intéressant. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup depuis, puisque je lis ses livres quand ils sortent. Et il nous fait l'honneur de venir très régulièrement sur Festiwild. En plus, il habite pas très très loin, mais c'est une thématique qui lui tient tellement à cœur qu'il est souvent au rendez-vous. Et là, dernièrement, il s'est intéressé au castor comme objet philosophique. Et c'est très, très intéressant. Sa démarche est super intéressante. Et donc, il va nous expliquer un peu tout ça au cours de cette conférence. Comment le castor peut nous apprendre des choses ou comment on peut apprendre du castor, quoi. Voilà.
Vous-même, Jérôme Bouvier, donnerez à plusieurs une conférence sur l'ADN environnemental. Alors, ça traitera de l'ADN, mais de quel type ?
Oui, alors là, c'est un... en fait, je suis dans cette conférence parce que j'ai tourné un documentaire comme caméraman avec Natacha Giller, la réalisatrice, qui sera présente. sur cette thématique-là. On a suivi des spécialistes, là, une équipe de Suisse, dont Loïc Pélissier, qui devrait être théoriquement en direct avec nous depuis la Suisse, en Zoom, pendant la conférence. Et en fait, c'est une technique, une nouvelle technique qui permet d'appréhender les milieux et les écosystèmes sans avoir à faire de prélèvement d'espèces dedans. C'est-à-dire que les techniques d'analyse maintenant sur l'ADN sont tellement fines que quand on fait des prélèvements d'eau dans une rivière, par exemple, on peut détecter les traces des formes de vie qu'il y a eu dans cette rivière. Dans les quelques semaines qui ont précédé le prélèvement. Et donc, quand on fait ces prélèvements très régulièrement dans le temps, à différents points de la rivière, on a vraiment une carte de ce qui vit à la fois dans cette rivière et autour de cette rivière, c'est-à-dire dans le bassin versant de cette rivière. Et donc, ça ouvre des perspectives pour le suivi de la santé des écosystèmes qui est gigantesque. Et pas que, en fait. Donc, il y a aussi un lien avec la géologie, etc. Et ce sont vraiment des techniques qui sont en train de révolutionner notre manière de faire de la recherche en milieu naturel. Et c'est ce que vont nous expliquer Natacha et Loïc Pélissier. Voilà. Et moi, je serai plutôt sur la partie terrain, du coup, du tournage.
Réconcilier l'humain et la nature, donc ce titre de ce festival. L'humain, peut-on donner une définition et à contrario, celle de la nature, et comment se réconcilient ces deux parties?
Ah, c'est une grande question. Alors, l'humain, comment définir l'humain? Voilà, c'est un terme très spécifique d'espèce. Je ne sais pas s'il faut définir comment je peux définir l'humain, mais c'est nous dans notre milieu. Mais le problème, c'est que depuis des siècles et des siècles, on sait, et notamment à cause de la religion, on s'est extrait de la nature et on s'est mis à penser qu'on pouvait vivre sans la nature, qu'on était au-dessus, qu'on pouvait la dominer. Il n'y a encore pas si longtemps, on se disait que les ressources naturelles étaient complètement illimitées quand on pêchait, etc. Et on se rend bien compte que ce n'est plus le cas. Et donc, nous, on veut lutter contre cette idée qu'on est capable de survivre en tant qu'espèce en dehors de la nature et que promouvoir cette idée que plus on prendra soin d'elle et plus on sera en bonne santé en tant qu'espèce. Hein. Et ça, il y a 2 ans, par exemple, on a eu un film de Marie-Monique Robin qui nous parlait du lien entre les pandémies et la destruction des écosystèmes et la mauvaise santé des écosystèmes, avec tout un travail vraiment d'enquête auprès de chercheurs et de spécialistes. Et donc, voilà, ce lien, pour nous, il est évident qu'il faut protéger, qu'il faut faire attention à. On est de plus en plus sur cette Terre, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de conflits d'espace et de conflits avec des espèces qui vont nous déranger dans notre vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quelles peuvent être certaines solutions? Comment envisager l'autre qui n'est pas humain, le non-humain, donc les plantes, tous les animaux, etc. Et comment faire en sorte, essayer de faire en sorte de réfléchir à une vie en commun et après une mise en pratique de cette, comment dire, de cette cohabitation, quoi. Voilà.
C'est en quelque sorte aussi tous ces rendez-vous. Hein, je ne compte pas le nombre, mais il y en a au moins une cinquantaine hein, dans ces 3 journées, sur divers lieux de Sainte-Croix aussi. Ouais. Pour cela, il y a un programme hein, qui permet de se guider. Et je voulais savoir, en quelque sorte, c'est un constat de ce qui est actuellement la planète de ces problématiques et peut-être aussi de trouver ou peut-être de réfléchir sur ce qui est en préparation, peut-être aussi pour l'évolution de ces deux formes hein, de vie, que ce soit celle humaine et celle de la nature.
Oui, alors avec une petite précision, c'est que ce festival n'est absolument pas un festival environnemental. C'est-à-dire qu'on parle très très peu de pollution, d'artificialisation des sols, etc. On n'est vraiment pas dans un discours environnemental. Ces sujets, ils peuvent apparaître, mais vraiment sous-jacents dans ce qu'on propose. Nous, l'idée, c'est à travers ces artistes, à travers ces conférences, à travers ces expositions, c'est de se reconnecter avec ces autres formes de vivant. C'est le temps d'un week-end, on est tous dans notre quotidien, etc. Et le temps d'un week-end, de nouveau nous dire que la terre sur laquelle on est, elle est extraordinaire. Et qu'il y a des gens vraiment très intéressants et très pointus qui connaissent certains sujets de cette terre mieux que nous et qui viennent nous en parler d'une belle façon. Et à chaque fois qui essayent de faire du lien entre les hommes, nous donc, et le reste du vivant, quoi. On vous met dans une bulle où tout à coup, un peu toute la planète sera là et toutes les formes de vivant seront là aussi avec nous. Voilà.
J'avais reçu il y a quelque temps les fermes paysannes et sauvages qui se sont missionnées sur une remise en état d'un terrain issu de l'agriculture conventionnelle et de ramener justement le vivant par la reconstitution de haies, de bocages et peut-être aussi de la redécouverte d'insectes que l'on peut soi-même observer. Là encore hier, j'ai vu des insectes que je n'avais jamais observés jusqu'à hier, des sortes de petites abeilles ou alors des insectes complètement improbables aux formes irréelles, en quelque sorte. Est-ce que, justement, ça, ces possibilités de revoir ou de découvrir, c'est aussi des propositions que l'on pourrait observer pendant ce week-end?
Oui, tout à fait. On a une expo sur les insectes, justement.
Mais dans les promenades même, tout simplement.
Oui, autour alors de... après, c'est à chacun d'essayer de regarder un peu plus autour de lui. Et c'est aussi un des buts de ce festival, c'est-à-dire de s'ouvrir à l'autre, quel que soit l'autre. Et les jardins du festival de l'ancien monastère, surtout cette année avec la pluie qu'il y a eu, etc., ils sont hyper verts. Donc je pense qu'il y a encore plein d'insectes dedans, etc. Et que il suffira d'ouvrir les yeux pour aller voir tout ça. Mais ce sera à chacun un peu de chercher un peu autour de lui et d'y faire attention. Nous, on va amener les enfants le vendredi, les scolaires, où il y a toujours une visite un peu d'une ou deux expos dans le programme de la journée, et où les instituteurs, les institutrices et les parents essayent d'ouvrir le regard des enfants à la fois sur les photos, les objets qu'ils vont voir, mais du coup sur la vie qu'il y a autour, qui peut être même dans les salles d'exposition ou en dehors dans les jardins. Donc nous, en tout cas, on souhaite que ça mène à ça. Oui.
Il y a toujours de la floraison sur ce jardin-là du monastère. Alors, ou c'est peut-être l'automne
C'est l'automne qui commence, mais je crois qu'il y a encore quelques fleurs qui sont en fleurs. Le jardin botanique, en ce moment, il est magnifique. Ouais.
D'accord, c'est l'occasion de découvrir certains insectes, d'ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait.
Ces trois journées permettent aussi de pouvoir se restaurer. Il y aura une buvette, de la restauration sur place, une préparation opérée par le lieu même, l'ancien monastère.
Tout à fait, tout à fait. Donc l'ancien monastère, que Festival loue pour l'occasion, donc avec toute l'équipe, c'est eux qui vont préparer des repas pour tout le monde, pour tous les visiteurs. Donc il y aura une restauration, il y aura une buvette, il y aura de la grignote, il y aura, alors suivant la température prévue, il y aura peut-être des glaces aussi, c'est possible. Et plus tout un... Donc ça, ce sera sur la place du village, cet espace-là qui va être un peu le cœur du festival. Et cet espace est libre d'accès pour chacun. D'accord ? L'entrée du festival est en dehors de cette terre de restauration. Et à la fois, en accès libre également, il y a un village associatif avec tout un tas d'associations ou d'animateurs qui sont là, de sculpteurs, etc. Et puis, il y aura donc, vous serez présents aussi, il y aura la radio, le Tipeee qui sera là, qui va faire des interviews un peu de tous les intervenants, et puis aller faire un peu des micro-trottoirs aussi à droite à gauche. Voilà, il y aura tout ça. Et puis, dans le village, en accès libre, donc non payant, il y aura plusieurs expositions aussi. À la fois dans la mairie, dans plusieurs granges dans le village. Donc ça, c'est aussi une évolution du festival d'année en année, où le village est de plus en plus inclus dans le festival en lui-même. Et c'est très, très bien. Je rappelle à l'occasion, du coup, que l'accès au village sera interdit aux voitures, aux visiteurs. Donc, il sera réservé pour vraiment les habitants de Sainte-Croix, et qu'on a prévu plusieurs parkings qui seront indiqués très correctement avec des navettes depuis chaque parking pour venir sur le site. Mais surtout, merci, ne forcez pas le passage et ne venez pas vous garer dans le village, parce que du coup, vous n'allez pas rester très longtemps garé.
Pour en connaître plus sur ce festival, il y a le site internet www.festival.org. Donc, je mettrai le lien sur la page de l'émission.
.org.
Et il y a aussi beaucoup de partenariats et de soutien qui émanent des collectivités également. C'est un aspect qui prend de son importance aussi, avec peut-être une prise de conscience de plus en plus avérée et de soutien donc pour ce festival.
Oui, eh ben, on commence à faire notre petite place dans le paysage des festivals français, et on est aussi un petit peu à part avec cette thématique et cette façon d'aborder les choses, avec plein de façons de parler de ce sujet. Mais chaque édition, c'est quand même une recherche de mécènes, etc. Jusqu'à présent, jusqu'à cette année encore, on avait pratiquement très peu de soutien public. On avait des partenariats sur du matériel, par exemple, des choses comme ça. Et c'est la première année où on a un partenariat avec l'Office français de la biodiversité, en espèces sonnantes et trébuchantes. Et j'espère que ça va perdurer. Sinon, c'est plutôt du mécénat qui peut se faire soit sous la forme d'argent, vraiment, soit sous la forme de partenariat en matériel. Je pense à Lyotard, par exemple, dans la région, qui nous met à disposition toutes les grilles qui vont à la fois permettre les expositions et à la fois de fermer le site pour le festival. Il y a tout un tas de partenaires comme ça, et puis certains commencent à devenir vraiment des habitués qui nous suivent depuis le début, comme Actes Sud, par exemple, qui à chaque fois sont présents avec nous. Donc cette année, par exemple, on a Baptiste Morisot et Francis Allais avec deux sorties de livres qui vont sortir après le festival, les livres, et nous, on les a en avant-première sur le site. Donc voilà, des partenaires importants qui nous suivent. Il y a Equibio aussi maintenant, qui était là il y a 2 ans et qui reviennent. Je ne peux pas tous les nommer ici, mais en tout cas, sans eux, vu qu'on a très très peu de subventions, en fait, on peut dire, et simplement cette aide de l'OFB, un peu du Conseil général en matériel, mais sinon, c'est une recherche active pour chaque édition, quoi. Juste une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'il y a une pré-soirée FestiWild le jeudi soir au Pestel, avec donc un de nos partenaires de toujours aussi, où on va proposer le film Microcosmos à 20h au Pestel, jeudi 26 septembre, en la présence de Samuel Jolivet, qui est le directeur de l'OPIE, qui c'est un entomologiste. L'OPIE, c'est un organisme de protection des insectes et de leur environnement, et qui va venir nous parler des insectes. Et c'est l'occasion de revoir ce film extraordinaire qui a un peu remis à l'époque sur les rails cette vogue du documentaire animalier au cinéma, voilà, et sortir de la télévision. Et c'est un très, très grand film.
Avec l'apport de Jacques Perrin, qui a énormément fait aussi.
Voilà, produit par Jacques Perrin à l'époque, qui a été un de nos parrains sur la première édition. Et voilà, c'est aussi une façon de lui rendre hommage, d'ailleurs, en diffusant ce film.
Un programme très dense, donc à découvrir sur le site. Hein. Il y a ce programme en fichier PDF, mais ce document, on peut le retrouver aussi à Die ou ailleurs, sur certains lieux.
Alors, en ce moment, sur Die, vous pouvez trouver des flyers à droite à gauche. Le programme en lui-même, donc ce que vous verrez sur le site, là, on le distribue sur site au moment du festival. Voilà.
Jérôme Bouvier, merci beaucoup d'être venu sur Air de Voix pour nous parler donc de cette 4e édition du Festival de l'ancien monastère de Sainte-Croix et dans le village aussi. Et ça sera du 27 au 29 septembre.
Voilà, merci à vous. À ce week-end. Au revoir.
Au revoir.